Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondiblog Centre. www.bondiblogcentre.fr.
Bondiblog Café.
Bondiblog
Café.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre première émission du Bondiblog Centre de cette nouvelle année 2019. Aujourd'hui, en ce mercredi 9 janvier, je vous propose d'écouter la première partie d'une émission en deux volets portant sur la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Bonne écoute.
Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 décembre en direct depuis le collège Jacques Decour à Saint-Pierre-des-Corps pour une rencontre entre deux classes de 3e, les 3e A et les 3e B, de M. Coudreau, leur professeur, pour une rencontre avec M. Jean Souris, président de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, qui est venu nous rendre visite. Bonjour M. Souris.
Bonjour.
Alors en introduction, pourquoi avoir accepté cette invitation ?
Bien, j'ai accepté parce que nous vivons une situation actuellement qui est assez difficile, que la jeunesse doit vivre aujourd'hui. Et j'ai été jeune comme eux, et à mon époque, moi, j'ai vécu aussi des moments difficiles. Donc, c'est pour faire ces échanges-là entre ce que j'ai vécu moi et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Moi, ce que j'ai vécu, c'était une période assez difficile que je ne voudrais pas qu'ils revivent. Et c'est pour cette raison que je vais leur expliquer mon vécu, ma jeunesse, mon engagement dans la résistance plus tard, parce qu'il n'a pas accepté la situation qui nous était faite. Donc voilà, c'est pour expliquer tout cela de manière qu'ils s'en imprègnent, qu'ils ne renouvellent pas, qu'ils ne revivent pas ce que j'ai déjà vécu et ce que ma génération, les gens de ma génération ont vécu. Donc voilà, je vais essayer de leur expliquer le mieux possible quelle était la situation à cette époque et quel a été notre vécu. Moi et puis mes parents, et tous ceux qui ont été de mon âge, et les générations qui ont suivi, évidemment. Voilà.
Merci M. Souris d'avoir accepté cette invitation. On va commencer par une première question d'un ou une élève, qui va commencer par donner son prénom.
Bonjour, je suis Morgane, et je voudrais savoir quelles étaient vos conditions de vie pendant que vous étiez résistant.
Mes conditions de vie, il faut que j'en parle avant d'être résistant, parce que j'ai été jeune comme vous, j'ai été à l'école comme vous, et j'ai vécu des événements étant jeune. Nous avons connu, à mon âge, moi, nous avons connu la guerre d'Espagne, et cette guerre d'Espagne a fait que nous avons reçu des femmes et des enfants qui ont été chassés par ce gouvernement espagnol, ce gouvernement fasciste. J'aurais fallu que je développe peut-être un peu ce qui s'est passé en Espagne, mais en Espagne, il y avait la République, le Front Populaire, qui avait triomphé aux élections, et le général Franco a refusé, évidemment, le vote de ces élections. Et avec l'aide de l'Allemagne, des troupes de Hitler et de Mussolini, eh bien, il s'est emparé du pouvoir. Il a instauré ce qu'on appelle un régime fasciste. Ce régime fasciste que tous les républicains qui s'étaient battus, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec Franco, ont été chassés. Donc nous avons reçu dans nos villages, dans nos communes, des femmes et des enfants espagnols. Les hommes avaient été, pour la plupart, ceux qui avaient combattu, étaient internés dans des camps de concentration au sud de la France. Les camps de concentration avaient déjà commencé à cette époque-là. Donc nous avions, nous, dans nos écoles, à côté de notre classe à nous, il y avait des enfants espagnols qui étaient là. On les a reçus dans les conditions difficiles du moment. On n'avait pas les mêmes conditions de vie que vous aujourd'hui. On les a reçus dans des granges. Il a fallu faire des collectes pour les nourrir. Il a fallu trouver des installations pour qu'ils puissent faire de la cuisine. Ils couchaient dans des granges, dans la paille. On avait récupéré des couvertures pour qu'ils puissent être quand même dans des conditions convenables. Mais vous voyez, on a reçu ces gens-là dans des conditions difficiles, mais on les a reçus quand même. Et je pense que moi, dans ma toute jeunesse, avoir reçu ces enfants-là qui souffraient parce qu'ils avaient vécu un peu la guerre, et puis le papa n'était pas là, et ils vivaient quand même dans des conditions assez difficiles. Voilà, nous avons déjà connu ça. Ensuite, la guerre, il y a eu la guerre qui s'est déclarée le 3 septembre 1939. Et la guerre, nous avons assisté à la mobilisation générale. Nous avons assisté à nos parents qui partaient à la guerre. On a assisté à nos voisins qui partaient à la guerre. On a assisté à la mobilisation générale. Alors, ce que je peux dire aussi, peut-être, c'est que dans nos familles, moi je suis né en 1927, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, ça faisait seulement 9 ans qu'elle était terminée. Nos familles vivaient dans le souvenir de cette guerre. Nos familles pensaient les plaies de cette guerre, parce que toutes les familles avaient été touchées par la guerre de 14-18. Donc nous, à l'école, quand on allait à l'école, on croisait... Dans le bourg, moi j'ai toujours vécu dans les campagnes, en milieu rural, je n'ai pas vécu en ville. Mais on croisait des anciens combattants qui étaient handicapés, soit qu'ils avaient amputé d'une jambe, d'un bras, enfin vous voyez, il y en a qui étaient gazés, il y en a d'autres qui étaient blessés à la figure, enfin ce qu'on appelait à l'époque les gueules cassées. Donc on assistait en permanence, on côtoyait ces gens-là. Et aux cérémonies, par exemple, du 11 novembre, eh bien, on était rassemblés autour du monument aux morts. Et les monuments aux morts à cette époque, et ils existent encore d'ailleurs, il y avait des grandes listes de gens qui étaient morts. C'était incroyable, les hommes qui avaient été tués au cours de cette guerre. Donc on assistait à tout ça, avec tous ces handicapés qui étaient autour, évidemment. Vous voyez, on a vécu toute cette période-là. Donc on a vécu ensuite la déclaration de guerre, la mobilisation générale. Et on pensait que cette guerre, ça allait se passer assez rapidement. On nous avait raconté un tas d'histoires, parce qu'au moment où on pensait les plaies de la Première Guerre mondiale, nous assistions, nous, dans nos écoles, à la préparation de la Deuxième. On faisait des dictées, là j'ai des tracts, mais on n'aura peut-être pas le temps de tout vous montrer, mais on a des tracts comme quoi, dans nos dictées, on nous préparait à la Deuxième Guerre mondiale. Et l'acier fut trempé, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, etc., etc. On faisait des collectes pour le vin chaud du soldat. Il y avait des affiches comme quoi il fallait collecter pour le vin chaud du soldat. Parce qu'il faut dire, quand on a déclaré la guerre à l'Allemagne, l'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne, on n'a pas fait la guerre à Hitler. Nos soldats sont restés l'arme au pied. Vous voyez ? Donc, Hitler, à ce moment-là, faisait la guerre à l'Est, vers l'Union soviétique. Mais en France, nous, nos armées, elles sont restées l'arme au pied, jusqu'au printemps prochain. Et quand Hitler, donc, nos soldats, fallait les occuper, donc ils jouaient à la belote, et puis on leur donnait du vin chaud pour passer l'hiver, parce qu'il faisait froid, c'était des hivers qui étaient très froids à cette époque. Donc voilà comment on a fait. On a déclaré la guerre à l'Allemagne, et comment on a fait la guerre à Hitler? Donc quand Hitler, lui, a décidé d'envahir la France, ça a été bâclé en 6 semaines. Nos troupes sont revenues plus vite qu'elles y étaient montées. Donc voilà, on a vécu tout cela. On a vécu la déroute de nos soldats. Moi j'ai vu des soldats, ma commune, on était sur une colline assez importante, et les soldats, ils arrivaient là, ils n'avaient rien mangé, ils avaient soif, ils étaient désarmés. C'était la pagaille, c'était la désorganisation de notre armée. Alors, je précise, ce n'était pas la faute à nos soldats, ils se sont battus comme ils ont pu avec les armes qu'ils avaient. Mais voilà, c'était la déroute. Et pendant ce temps-là, que les troupes de Hitler avançaient sur nos territoires, eh bien la population fuyait l'armée allemande. Ce qui fait qu'à nouveau, nous avons reçu dans nos communes, des Alsaciens et des Lorrains. On a recommencé à refaire des collectes pour nourrir ces enfants, ces Lorrains, ces Alsaciens, qu'on a reçus dans les mêmes conditions qu'on avait reçus les enfants espagnols, les familles espagnoles. Voilà, tout ça, c'est notre vécu, vous voyez. Donc, en dehors de la situation, des sentiments que l'on avait pour quand même ces enfants, et puis cette population qui fuyait Hitler, c'était la déroute dans nos rues, dans nos routes. La population fuyait. Et l'aviation hitlérienne, y compris celle de Mussolini, mitraillait les populations sur les routes. C'était des milliers, des centaines de milliers de gens qui fuyaient devant l'ennemi. C'était une pagaille énorme. Il y a eu quand même pas mal de morts de civils dans cette débâcle de notre population. Alors voilà, on a assisté à tout cela. Et puis, bon, pour aller assez vite, comme on avait, nos troupes étaient en déroute, il a bien fallu signer un accord avec Pétain, c'est avec l'Allemagne. C'est ainsi que le maréchal Pétain est arrivé et a signé l'armistice avec Hitler. Donc la France divisée en deux, zone nord, zone sud. Et nous, on se trouvait, moi je n'ai pas vécu en Touraine, moi j'étais à l'époque, j'étais dans le Limousin. Donc je me trouvais en zone sud. Donc la zone sud était la zone qui était non occupée. Toute la zone nord était occupée. Ça veut dire que la population en zone nord savait déjà ce que c'était que d'être occupée par une armée étrangère, alors qu'au sud, on avait l'impression que le maréchal Pétain avait arrêté la guerre et nous avait évité quand même une catastrophe. Donc il était devenu très populaire. Mais il nous a installé un régime que Franco avait installé en Espagne. On a eu le même régime en France. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé sous une société, sous un régime où il n'y avait plus de partis politiques, plus de syndicats, il n'y avait plus d'organisation, c'est-à-dire c'était la dictature. Donc on a vécu, dans notre jeunesse, on a vécu tout cela. Et pour prendre mon cas personnel, mon père était secrétaire de mairie à l'époque. Donc, quand Pétain est arrivé, comme mon père était quelqu'un qui ne pensait pas de la même chose que Pétain, mon instituteur aussi à l'époque d'ailleurs, mon père a été révoqué, mon instituteur à l'époque a été révoqué aussi. Donc voilà, vous voyez. Et puis moi, je devais poursuivre mes études. Et le fait que mon père n'ait plus de travail, il était handicapé. En plus, il était handicapé d'une jambe. Il ne pouvait pas faire n'importe quel métier. Ce qui fait que, au lieu de poursuivre mes études, moi, j'ai eu mon certificat d'études à 12 ans et demi. À 13 ans, 13 ans et demi, eh bien, on m'a mis à garder les vaches. Voilà, je suis allé travailler à la campagne. Ce n'était pas mes ambitions de jeunesse, hein. Quand on est jeune, on rêve de faire des métiers. Et j'avais rêvé de faire des métiers comme tous les jeunes. Et puis voilà, me retrouver à la campagne à garder les vaches. J'étais chaussé de sabots, enfin vous voyez comment ça se passe. Donc pour moi, ça a été une espèce d'humiliation. Je l'ai ressenti comme ça. Donc voilà, très rapidement, quelle a été ma prime jeunesse. Donc voilà, on avait un peu la jeunesse, notre jeunesse à l'époque, on s'est trouvé encadré par ce régime. Les associations de jeunesse, il y a juste l'Église qui avait réussi à sauvegarder la JOC et la JEC, c'est-à-dire la jeunesse ouvrière catholique et la jeunesse étudiante catholique. Mais tout cela, ça a été vite récupéré par des organisations fascistes. Vous voyez, il y avait le... J'ai noté un petit peu parce que ma mémoire flanche. Il y avait la JPF, Jeunesse Populaire Française, c'était l'organisation de Doriot, fasciste Doriot. Il y avait la Jeunesse Nationale Populaire de DA, le fasciste DA, qui était venu à Tours et les résistants avaient essayé de lancer une bombe au théâtre de Tours, mais enfin, c'est pas l'objet de ma réunion ce soir. Et Pétain avait créé en 41 les chantiers de jeunesse. Vous voyez, toute cette jeunesse était encadrée. Il avait utilisé les scouts de France, qui étaient 60 000 avant-guerre, ils sont passés à 200 000. Et puis, il avait créé les compagnons de France. Ces compagnons de France étaient chargés de faire d'apporter la bonne parole du maréchal Pétain à l'ensemble de la jeunesse. Vous voyez, nous étions totalement encadrés à l'école, puisqu'à l'école, il fallait tous les matins chanter « Maréchal, nous voilà », bien sûr. Et on subissait la propagande de ce régime, alors que nos parents étaient dans des difficultés, parce que, évidemment, la guerre, ça n'apporte pas le bonheur au peuple, tout cela. Et alors voilà quelle a été ma prime jeunesse. J'étais pas dans la résistance à l'époque. Vous voyez, j'étais tout jeune. Hein. Alors, est-ce qu'on fait le point ici? Comment on fait?
Et puis, alors, je sais pas, votre question, c'était...
Quelles étaient vos conditions de vie en tant que résistant?
Alors, votre entrée en résistance, peut-être?
Oui, mais les conditions de vie, peut-être avant, parce que voilà, nous aussi, conditions de vie, comment je peux dire, pour relier le passé et le présent, c'est l'imagination qui peut être le lien. Imaginez, à l'époque, nos veillées, par exemple, à la maison, sans télévision, sans portable, sans téléphone, sans radio, sans machine à laver, sans salle de bain, sans toilette, sans eau potable, enfin, sans eau potable, je veux dire, sans eau courante, hein, à la maison, enfin, tout ça, on n'avait rien. Nos veillées, elles se passaient au coin du feu. Et on écoutait les anciens, nos parents qui parlaient. On écoutait ce qu'ils disaient. C'est-à-dire que l'histoire, elle se transmettait de génération en génération. Aujourd'hui, vous rentrez à la maison, vous allez dans votre chambre, vous avez l'ordinateur, vous avez le smartphone, vous avez tout ça. Je le vois avec mes petits-enfants, moi. Même quand on est à table, ils ne peuvent pas se passer du smartphone. Alors que nous, quand on était à table... On écoutait nos parents, nos grands-parents, les voisins qui parlaient. On écoutait, on savait ce qui se passait un petit peu à l'époque des événements. Toutes les sensations que nos parents avaient, les difficultés qu'ils avaient, on les vivait aussi. Parce que la transmission se faisait immédiatement, tout de suite. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, il faut imaginer cela, les conditions que l'on vivait à l'époque. On n'avait pas des jeux comme vous. Moi, vivant à la campagne, nos jeux, c'était de construire des cabanes dans les arbres. C'était de dénicher les nids d'oiseaux. C'était, vous voyez, on vivait avec la nature, beaucoup plus près de la nature. Donc il faut imaginer cela, ces conditions de vie que l'on avait. Vous voyez, on n'avait pas le confort que vous avez aujourd'hui. On n'avait pas des sommiers comme aujourd'hui. On avait des paillasses. On n'avait pas de douche. On n'avait pas. Vous voyez, il n'y avait rien. On se lavait avec des lessiveuses. Et puis l'eau, pour avoir de l'eau potable, il fallait la chercher au puits. Et c'était beaucoup. La vie était tout à fait différente. On ne vivait pas du tout de la même façon. Donc, est-ce qu'on était malheureux? On vivait avec notre temps. Aujourd'hui, avec tout ce que vous avez entre les mains, vous n'êtes pas plus heureux que nous, on était peut-être à l'époque. Parce que chaque génération vit avec son temps. Vous voyez, donc... C'est important de savoir quelles étaient nos conditions de vie à nous. Et puis, il y avait l'autorité du père. À table, nous, il ne fallait pas qu'on parle. C'est l'autorité du père, c'était à l'époque, le patriarcat, ça existait. Aujourd'hui, je vois bien, moi, avec mes enfants, enfin, mes petits-enfants surtout, c'est eux qui ont la parole pratiquement tout le temps, vous comprenez, hein, Les choses ont changé. Ben oui, on est obligé de leur dire des fois, taisez-vous un peu. Hein, voilà, mais nous, on n'avait pas le droit à la parole. Il fallait dire, maman, je veux ceci, s'il te plaît. Il fallait dire merci. Quand on allait à l'école, il fallait qu'on se découvre devant le curé, qu'on se décoiffe, devant le maire, devant les personnalités. Si on était pris à ne pas se décoiffer devant le pharmacien ou le docteur, On avait des lignes, le soir à faire, 100 lignes, 200 lignes. Je n'ai pas dit, je ne suis pas décoiffé de moi, monsieur le curé. Vous voyez, c'était ça, les conditions de vie. Nous. Ouais. On n'en est pas mort, hein, vous voyez, parce que je suis encore là. Enfin, il faut imaginer quelle était notre vie à ce moment-là. Et quand je dis ça, j'en ai laissé la moitié de nos conditions de vie. C'était encore plus compliqué que cela. Hein. La nourriture était différente. Il arrivait dans les campagnes, les gens, ils mangeaient de la viande de boucherie qu'au Mardi Gras. Les gens ne vivaient que ce que la viande qu'ils produisaient, des lapins, des poulets, hein, des choses comme ça. Ils mangeaient leurs œufs, mais la viande vraiment, le Mardi Gras, c'était la grande fête, parce que là, on achetait de la viande de boucherie. On mangeait de la viande de boucherie que les jours de fête. Les autres temps, ben, on se débrouillait. C'était les conditions de vie qui n'étaient pas faciles non plus. Le chômage existait à l'époque. La soupe populaire existait à l'époque. On n'avait pas les restaurants du cœur, mais il y avait la soupe populaire. Ça veut dire que les difficultés que vous ressentez aujourd'hui, elles existaient aussi à notre époque, dans des conditions différentes. Ce qui fait que, quand on voit l'évolution de notre monde, de notre société, moi j'ai 92 ans, je suis né en 27, quand on voit l'évolution de la société, avec tout ce qui existe aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la mondialisation, du numérique. Nous, on ne connaissait pas ça, nous. Il n'y avait pas de téléphone, presque rien du tout. Il n'y avait pas de télévision, ça n'existait pas, ces choses-là. L'information, c'était un monsieur qui venait avec son tambour dans les quartiers, passait le tambour, tout le monde sortait pour écouter, avis à la population. L'information se faisait comme ça. Il y avait la presse, bien sûr. Alors, tout ça, il faut imaginer quelles étaient nos conditions de vie. Donc, voilà, pour répondre à la question, avant d'entrer en résistance, on a vécu cette période-là. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, garder les vaches, je n'ai pas gardé les vaches longtemps. Il a fallu participer aux travaux des champs, puisque les hommes étaient partis. Cette guerre, elle avait quand même fait près de 2 millions de prisonniers. Et dans les campagnes, et dans les usines aussi, mais dans les campagnes, puisque la France était agricole à l'époque, eh bien, il fallait trouver de la main-d'œuvre. Et les femmes ont remplacé les hommes dans les campagnes. Donc les jeunes, très jeunes, ont été vite entraînés dans les travaux des champs. Donc, ce qui fait que très jeune, 14 ans, moi, je faisais les travaux des hommes. Des travaux très durs. Et ces conditions de vie, eh bien, ça vous fait travailler un peu le cerveau. Vous évoluez un petit peu. Et puis, pas de liberté, encadré. Je me suis trouvé, évidemment, un peu pas par la force des choses, mais on était copains, on avait des petits camarades quand même, on sortait un peu le soir. Les bals étaient interdits, tout était interdit. Il y avait le couvre-feu la plupart du temps. Il n'y avait pas d'éclairage public aussi. La nuit, il faisait noir comme dans un boudin, comme on dit. Les fenêtres, il fallait qu'elles soient cachées pour pas qu'on voit de lumière en cas de bombardement. Donc quand on sortait la nuit, c'était la noire, la nuit complète. Il n'y avait pas d'éclairage public, rien. Dans nos communes, en ville, c'était pareil. Vous voyez, c'était les conditions de vie quand même. Et pour se déplacer, on se déplaçait à pied. On avait des vélos, on n'avait pas de pneus. Vous voyez, les paysans, pour lier les gerbes, ils n'avaient pas de ficelles. C'était ça, les difficultés de la vie. Donc ça fait évoluer les cerveaux, tout cela, ces conditions de vie-là. C'est ce qui fait que, eh bien, de révolte en révolte, on en arrive à se dire, on ne peut plus tolérer ces choses-là, il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'on entre en résistance. Et moi, c'était facile, un peu facile d'entrer en résistance avec des camarades. On commençait à distribuer des tracts. J'avais des copains qui avaient je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils avaient quelques tracts. et on commençait à distribuer des tracts. Mais distribuer des tracts, aujourd'hui, c'est simple. Et encore, il y a des gens qui ne veulent pas le faire parce qu'ils ont honte de distribuer des tracts. Hein. On trouve beaucoup de difficultés aujourd'hui pour trouver des gens qui veulent distribuer des tracts. Mais à l'époque, on ne pouvait pas distribuer des tracts comme ça de la main à la main. Moi, je n'ai jamais distribué un tract de la main à la main. Ceux qui l'ont fait se retrouvaient dans les camps de concentration. Oui. Parce qu'il y avait la délation. Parce que Pétain, 90% des gens étaient pour le maréchal Pétain. Dans la zone sud. Vous voyez ? Et je n'ai pas parlé, mais la Légion des combattants. La Légion des combattants, c'était tous les survivants de la dernière guerre, de la guerre 14-18, qui étaient beaucoup plus jeunes, qui n'avaient pas fait la guerre, ou qui étaient mobilisés, mais qui ne l'avaient peut-être pas faite, ou s'ils l'avaient faite, ils avaient survécu. Ces gens-là étaient pour le maréchal Pétain. C'était le maréchal qui avait gagné Verdun, qui avait gagné, etc. C'était le vainqueur de Verdun. Donc il avait cette autorité-là encore. Donc la Légion des anciens combattants, la Légion des combattants, elle nous imposait un tas de choses à faire. Et il fallait y aller. Si vous n'alliez pas à une manifestation, une cérémonie, on vous appelait, on vous disait, M. Souri, on ne vous a pas vu. Je ne suis pas de mes parents, là. Donc il fallait que mon père y aille. Et ma femme, ma mère aussi. Et puis nous, on y allait aussi. On n'allait pas rester à la maison tout seul. Oui. Donc, un jour, mon père, je continue là, je pense. Un jour, mon père, ma mère n'était pas là. On habitait le bourg. Et il m'appelle, il était dans la cuisine. Et puis alors, j'étais assez surpris. Il y avait un revolver sur la table. Avec des cartouches, des boîtes de cartouches, et puis la graisse, tout ça, enfin bref. Il préparait ce revolver dans une boîte en fer, il cachait tout ça, il mettait de la graisse. Il me dit, écoute, il faut que je camoufle ça, et s'il m'arrivait quelque chose, quelqu'un viendra le chercher. Et là, je lui dis, mais qui t'occupe pas? Il dit, quelqu'un viendra le chercher, tu auras qu'à le leur donner. Bon, d'accord, donc j'étais dans le secret, là, vous voyez. J'avais eu des différends déjà avec mon père, auparavant. Parce qu'il voulait me faire travailler dans une ferme, et j'y avais été une semaine, mais cette semaine, toute la semaine de la ferme, je faisais qu'arracher des topinambours. J'avais 13 ans et demi, 14 ans, hein. Toute la semaine, hein, qu'il pleuve pas, c'était au mois de mars, arracher le topinambour. Et à midi, je vous explique ça parce que c'est important peut-être, hein, même si c'est une anecdote. À midi, bon, on se mettait à table, comme les domestiques, fallait que je mange à vitesse, parce qu'après, il fallait faire téter les veaux à midi. Parce qu'on faisait de l'élevage dans le Limousin. J'étais dans le Limousin, je n'ai pas peut-être précisé, mais dans la région de Limoges, à Haute-Vienne. Donc je mangeais à vitesse et puis j'allais faire téter les veaux. Alors en général, les veaux, ils connaissent leur mère. On les détache et puis ils vont directement sous leur mère. Et puis là, un beau jour, ils font comme nous, les veaux. Hein. Il y en a des qui sont dissipés. Au lieu d'aller sous sa mère, il est sorti dehors. Et moi, tout seul pour attraper un veau dehors, hein, je cours vite à la maison, chercher le patron, et je les surprends. Il y avait un gros poulet sur la table. Il était en train de se régaler avec un gros poulet. Alors que moi, il me donnait des topinambours, de la bricole, quoi. Ça m'a vexé. J'ai rien dit. Le patron est venu, on a rattrapé le veau. Bon, la semaine se passe, et quand je suis rentré chez moi, j'ai expliqué à mon père cette affaire-là. Bon, il m'a rien dit, mais le lundi matin, il m'a dit, tu reviens chez Lavallée, il s'appelait Lavallée. Je dis, son nom, ça risque rien ici. J'ai dit, non, j'irai pas. Et tu vas y aller. Je dis, j'irai pas. Tu vas y aller, j'irai. Et puis, voilà. Et comme il était handicapé, je courais plus vite que lui. Or, il voulait me frapper. Je sors dehors, ça se passait devant les gens, dans le bourg. Hein. tout le monde assistait à la scène. Et il me courait derrière avec sa canne, et moi, je courais plus vite. Et puis, j'arrive devant une boucherie, le fils du boucher me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je dis « Mon père, il veut que j'aille... » Il me dit « Rentre dans la cour. » Alors, je rentre dans la cour, il va trouver mon père. Et puis, j'ai été embauché à la boucherie, voilà, j'ai travaillé là. Alors, la boucherie, il y avait une grosse ferme aussi, c'était un gros boucher. Tantôt, je travaillais à la ferme, tantôt, je travaillais à la boucherie. Mais je ne vais pas m'étendre sur cette question-là, parce qu'il y aurait tout à raconter, là aussi. Donc, je vais, avec cet accrochage avec mon père, bon, ça m'était resté quand même, ça ne s'était pas passé là. Hein. Donc, quand il m'a présenté cette histoire d'armes, là, ça m'a fait plaisir, en somme. Il me fait confiance, et puis, bon. On a été caché cette boîte, bien préparée. On louait, à l'époque... On louait un morceau de grand chez une voisine qui habitait le bâtiment derrière. Le propriétaire de la maison où on était, c'était un paysan, un agriculteur qui avait des vaches également. C'est là d'abord la première ferme que j'ai faite, c'était chez lui. Et alors on avait cette femme, on mettait notre bois là. Et on avait fermé avec des planches. Parce qu'elle avait la main un petit peu leste. Hein. Donc voilà, on était prévenus. Donc on avait fermé avec des planches, et puis on avait bien camouflé la boîte, là, comme c'était du bois, il y avait de la sciure et tout. On avait bien recouvert, pour savoir qu'il y avait une boîte là-dedans, il fallait vraiment... Hein. Ils n'avaient pas les appareils comme aujourd'hui, vous voyez. Enfin bref. Bon, l'affaire était réglée. Et puis un beau jour, comme mon père était secrétaire de mairie, il connaissait l'adjudant de gendarmerie du chef-lieu de canton, de Nantia, c'était le chef-lieu de canton de Nantia. Il vient trouver mon père, il dit « Mon vieux, t'es dénoncé, tu vas être perquisitionné. Alors ce que tu as planqué là-bas chez Madame Untel, tu as intérêt à l'enlever tout de suite. » Alors c'est ce qu'on a fait. Et bien cette dame-là, une voisine. Moi, je jouais avec je travaillais avec sa fille, d'ailleurs. Elle travaillait dans les champs avec moi. Elle travaillait aussi à la ferme que je travaillais. Je sortais avec ses enfants aussi, également. Cette femme, le puits du quartier était devant chez nous, devant la maison. Cette femme venait peut-être 3-4 fois par jour chercher de l'eau au puits. Elle trouvait ma mère qui était là, elle papotait toutes les deux. Nous, on avait derrière, en face chez elle, on avait un emplacement où on avait des poules et des lapins, parce qu'à l'époque, tout le monde avait ses poules et ses lapins dans la campagne. Hein. Donc, c'était toujours des choses qu'on mangeait qui ne coûtaient pas cher. Même s'il fallait aller chercher l'air pour les lapins. Parce que nous, les enfants, il fallait aller avec la maman chercher de l'air pour les lapins, 2-3 fois par semaine. Hein. C'était notre corvée, ça, nous. Donc, cette femme qui nous côtoyait en permanence, ma mère en passait derrière, pour aller aux toilettes, parce que, je le répète, les toilettes, il fallait y aller, il y avait au moins 100 mètres pour aller chez les toilettes dans le jardin. Donc, on avait des seaux hygiéniques la nuit. On ne faisait pas au lit, hein, vous voyez. Donc, on avait des seaux hygiéniques, il fallait les vider tous les matins. On passait devant chez elle, ça papotait. Eh bien, cette femme, elle nous a dénoncé la gendarmerie. Vous voyez ? C'est ça. C'est ça, la délation. Et la délation, c'était une institution à l'époque. Il suffisait d'une lettre anonyme, même si c'était faux. Vous étiez embarqué. 90% des gens qui ont été déportés l'ont été sur dénonciation. Parce que l'ennemi, il ne savait pas, lui. Quelles étaient vos opinions? Quelles étaient vos actions? Il n'y a que le voisinage qui pouvait savoir. Donc le voisinage qui s'apercevait que vous aviez une petite activité qui était un peu douche, louche, enfin bref, top, on vous dénonçait. Vous voyez? Et nous étions en zone sud. Donc voilà, et supposez un instant que cet adjudant de gendarmerie n'ait rien dit à mon père. Eh bien, nous étions perquisitionnés, mon père était arrêté, peut-être moi aussi. En supposant que moi, je ne sois pas arrêté parce que j'étais jeune, j'avais 15 ans à l'époque. Je suis entré dans la résistance à 15 ans. C'est dans mes dossiers, ça, vous voyez. À 15 ans, ils ne m'auraient peut-être pas amené, mais mon père, c'était certain, il n'était plus là, il ne serait plus là. Hein. Mais il y a des camarades qui savaient que j'étais dans la connaissance de cette arme qui était cachée. Puisqu'un revolver, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais à cette époque-là, un revolver, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on avait, personne n'avait d'armes à l'époque. Les fusils de chasse avaient été rendus, etc., etc. Et dès que quelqu'un supposait que vous aviez une arme, vous étiez perquisitionné. Donc c'était le cas. Donc cette arme, elle était très importante pour en avoir d'autres. Donc, si cette arme, mon père est arrêté, mais le camarade qui devait venir chercher cette arme savait que j'étais dans la confidence. Il savait aussi que j'avais des problèmes avec mon père. Et ils auraient dit tout de suite, tiens, le fils, il a vendu son père. Et voilà, c'est ça. Et moi, la résistance à l'époque, vous savez ce qu'elle faisait, hein, des traîtres. Hein. C'était vite bâclé, vous comprenez. Alors vous voyez, cet adjudant de gendarmerie, je lui dis merci. Ce qui provient aussi que dans la gendarmerie, il y avait des gens qui étaient des patriotes. Et c'est important de le dire aussi. Tout le monde n'était pas au service du maréchal, mais quand vous êtes dans une administration, surtout quand c'est une autorité militaire, comme la gendarmerie, quand vous avez des ordres, il faut les appliquer. Hein, c'est pas si simple que ça de désobéir. Voyez. Donc voilà ma première expérience, si vous voulez, de la résistance. Et là, évidemment, quand j'étais dans le bain, ça a continué. Hein. Et pourquoi les adultes, ils avaient besoin de jeunes comme nous? Pourquoi mon père m'a mis dans la confidence? C'était sans doute une épreuve pour savoir comment j'allais réagir. Mais nous étions sous un régime fasciste. Il n'y a plus de liberté. Vous êtes sous une pression idéologique énorme. Une propagande énorme. Parce qu'on avait quand même des postes de radio. Pas partout. Mais là, dans mon quartier à moi, il y avait le sabotier qui était adjoint au maire avant-guerre. Ils avaient un poste de radio. Sa femme était couturière, ce qui fait que aux informations, comme la situation était quand même assez dramatique, on allait écouter chez eux les informations. On allait écouter Hitler quand il haranguait la foule, c'est impressionnant. C'est parce que vous avez vu des films où Hitler, il harangue la foule. Vous avez ces milliers de gens là qui l'acclament. Hein, parce qu'Hitler n'est pas venu au pouvoir comme ça. Il est venu au pouvoir avec un soutien populaire. Pétain aussi, je viens de le dire. Hein. Donc, c'était très impressionnant pour des gens comme nous. Donc, les adultes avaient besoin. Mon père, bon, il avait été révoqué par Pétain, mon instituteur aussi. Mais ceux qui avaient avant-guerre des opinions de gauche, ils étaient mentionnés sur des listes. La collaboration, on les connaissait. Donc, ils étaient plus ou moins surveillés. Vous voyez ? Ce qui fait que mon père était surveillé, parce que mon père est entré dans la résistance, il a été contacté en janvier 1941. Par un responsable du Parti communiste local, et puis par un responsable du Parti communiste du département, qui venait de Limoges. Donc, ils étaient bien repérés, parce que le Parti communiste, à l'époque, était dans la clandestinité. Les trois quarts de ses militants, ses députés, tout ça, maires, étaient dans les prisons, emprisonnés. Donc, il fallait faire très attention de ne pas se faire repérer. Donc, ces hommes qui voulaient organiser un peu la résistance, il ne fallait pas qu'ils aient des contacts entre eux, parce que ça aurait été supposé que celui qui avait pris son contact serait venu à la maison où mon père était chez lui. Le voisinage aurait dit, tiens, ça y est, il y aurait quelqu'un qui aurait... Donc, comment ceux qui organisaient la résistance pouvaient communiquer. Ce n'était pas par téléphone. Il n'y en avait pas, pratiquement. Il y avait des cabines, un petit peu, mais il y avait des téléphones chez des particuliers. Et on ne pouvait pas téléphoner chez les particuliers à un autre camarade pour lui expliquer ces choses. Puis c'était surveillé. Donc c'était l'agent de liaison. Les agents de liaison étaient la seule façon entre les responsables de la résistance pour communiquer. Et nous, les jeunes garçons comme moi, les jeunes filles surtout aussi, parce que les jeunes filles, quand elles tombaient sur un barrage, elles passaient assez facilement. Les Allemands, j'en suis encore au temps de la France non occupée, parce qu'à partir de novembre 1942, la zone sud a été occupée. Mais j'en suis encore là, dans la zone libre. À l'époque où ces événements se passent, là, nous étions en zone libre. C'était un ghetto sous le régime de Pétain. Quand la police secrète est venue perquisitionner à la maison, ils ont été directement où il y avait la boîte. Hein. La mémé, elle avait bien indiqué où se trouvait la boîte. Nous avions bien vu le faire, hein, à travers les planches du garage. Elle avait bien indiqué l'endroit. Donc l'interrogatoire s'est passé, ça a duré peut-être 2 heures quand même. Il y avait 2 tractions avant qui étaient là, la police secrète à l'époque. Et le responsable, mon père se moquait un petit peu d'eux en disant « Oui, caché un canon 75 en pied détaché, tout ça. » Et le gars, il tapait à la machine et puis il voyait qu'il se foutait de lui. Donc le chef, il a dit « Bon, allez, il y en a marre, allez, on plie tout ça. » Puis voilà, ça s'est réglé comme ça. Parce que je pense que la police secrète, le responsable, ils avaient l'ordre de venir perquisitionner, mais ils n'ont pas utilisé beaucoup de zèle, comprenez. Et c'est ça qui est important. Enfin, ils avaient fait leur devoir. Hein. Donc la vie était sauve pour mon père et puis pour moi aussi. Donc voilà, si vous voulez, comment je suis entré, moi, dans la résistance. Alors après, l'agent de liaison, j'étais en permanence, en vélo, bien sûr, avec beaucoup de difficultés, parce qu'on avait du mal à trouver des vélos. Et puis on ne trouvait plus de pneus. Donc là, il fallait organiser sa vie. Alors je ne vais pas entrer dans ces détails, comment on organisait la vie pour avoir... Si on voulait un pneu de vélo, il fallait donner quelque chose à manger aux vendeurs de vélos. Si vous n'auriez pas un bout de viande, une carpe, n'importe quoi, il n'y avait pas de pneu. C'était le troc, un petit peu. Si je se transformais après avec le marché noir, parce qu'il y en a qui ont profité aussi de la situation. Mais ça, c'est un autre problème.
Je m'appelle Mano. Est-ce que vous avez déjà eu peur de vous faire prendre ?
Ah ben, évidemment. Quand on fait l'agent de liaison, chaque fois que je rentrais à la maison, parce que souvent, je me déplaçais souvent la nuit, et mon père me disait, « As-tu été suivi ?» Je disais non. Et quand je partais, je faisais attention que personne ne me suive, parce que l'ennemi, y compris la police française, mais les Allemands étaient très habiles là-dessus, ils cherchaient quel était l'agent de liaison. C'est l'agent de liaison qui les amenait aux responsables de la résistance. Vous voyez ? Ils étaient très habiles là-dessus. Ils arrivaient à détecter quel était le jeune ou la personne qui jouait, faisait l'agent de liaison. Parce que l'agent de liaison, lui, il l'amenait. Il contactait les responsables de la résistance. Il portait des messages. Donc, s'ils arrivaient à trouver celui qui faisait l'agent de liaison, ils le suivaient. Ils le suivaient, puis ils l'amenaient à celui-là. Il disait rien, il laissait faire, il l'amenait à l'autre. Et c'est comme ça que ils arrivaient à ramasser toute l'équipe. Jean Moulin, il a été pris un peu de cette façon-là. Mais la fiche rouge, Manouchian, les Allemands ont mis 9 mois à pister les agents de liaison qui les ont conduits à tous les résistants. Et quand ils les ont ramassés, ils les ont tous ramassés ensemble. Vous voyez ? Donc, nous, en tant qu'agents de liaison, il fallait qu'on fasse très attention de ne pas être suivi, parce que si on était suivi, ça veut dire qu'on était repéré. Oui. Donc voilà, donc chaque fois que j'entrais, il me dit, t'as pas été suivi. Non. Et quand je rentrais la nuit, parce que quand on était jeune, on était sous un régime fasciste. Voilà. Mais les jeunes en sortaient quand même le soir. Même s'il y avait couvre-feu, les jeunes... Mais les voisins ne voyaient aucun inconvénient à ce que je sorte avec un copain du village. Il y avait un autre copain comme moi qui était un peu dans le coup aussi. On était tous les deux un peu dans la branche de la résistance. Donc on sortait ensemble, mais ça gênait personne. Ça aurait été mon père qui sortait la nuit, les gens auraient dit, où c'est qu'il va le père souris, hein. Ça aurait tout de suite éveillé les soupçons. Mais nous, on est jeunes, on se retrouvait au bourg, comme ça, là, un petit café, bon, on faisait un peu la fête, à notre façon, bien sûr, à l'époque. Donc ça ne dérangeait personne. Et quand je rentrais, il fallait que je passe à un petit sentier. Et il y avait une ferme qui était là, il y avait toujours un chien qui était là. Parce que dans les campagnes, à l'époque, il y avait des chiens presque dans toutes les maisons. Il n'y avait pas les troupeaux, parce qu'il y avait beaucoup de troupeaux dans notre région. Il n'y avait pas de clôture électrique comme maintenant. Maintenant, il n'y a plus de bergers, il n'y a plus de bergères. À l'époque, les troupeaux étaient gardés par des femmes, par des hommes, par des bergers, des bergères. C'était soit des jeunes filles, ou des mémés, ou des grand-mères qui gardaient les troupeaux. Parce que les grand-mères vivaient toujours avec les enfants. Et les petits-enfants, toutes les familles étaient toujours groupées, en principe. Donc, c'était leur tâche, un peu, d'aller garder les bêtes. Hein. Donc, ce chien-là, quand j'arrivais, il donnait une petite jappée. Il venait à moi, je le caressais, je rentrais. Si c'était un étranger... Il se mettait à aboyer, et tous les chiens du village aboyaient. Une personne étrangère qui passait dans le village, qui traversait le village, tous les chiens se mettaient à aboyer. Il n'était pas question d'aller disputer un tract à la porte d'une maison, parce que les chiens se mettaient à aboyer. Donc les gens sortaient, tout de suite. Vous voyez, donc distribuer des tracts dans ces conditions-là, ce n'était pas possible. Donc les tracts, nous, on les balançait. Dans les villes, c'était peut-être un peu différent, dans les usines, mais nous, on ne pouvait pas les balancer dans les villages, ou alors on utilisait d'autres façons. Par exemple, on avait un tract, on le salissait un petit peu, et puis on arrivait dans le village, on dit, tiens, j'ai trouvé ça. Alors on rassemblait les gens du village, pas tous, ceux qui étaient connus, parce qu'on se méfiait toujours de certaines personnes. Donc, le tract, il faisait le tour du village, ce tract. Mais on l'avait trouvé, on ne l'avait pas distribué, vous comprenez? C'était une façon. Ou alors, on les mettait à l'entrée des chemins. Il ne fallait pas qu'il fasse trop mauvais temps, on mettait à l'entrée avec une pierre dessus, pas que le vent l'emporte. Et les premières personnes qui passaient trouvaient le tract, et puis ils faisaient comme on faisait nous. Ah, j'ai trouvé ça, regardez, voilà, ça se passait comme ça. La transmission se faisait de cette façon-là. À l'époque, il y avait une foire, tous les mois, il y avait une foire dans toutes les communes du canton. Tous les cantons, c'était pareil. Donc, la veille de la foire, nous, on allait mettre des tracts à l'emplacement pour qu'ils soient lus. Mais les gendarmes le savaient. Donc, les gendarmes se postaient la nuit pour nous choper. Mais bon, là, c'était le chat et la souris, là, vous voyez, dans ces conditions-là. Mais ceux qui étaient pris, c'était la déportation. Et c'était déjà. Ou la prison. Alors voilà, si vous voulez, comment les choses se passaient. Comment on recevait les tracts, moi, je n'ai jamais posé de questions, parce que je n'ai jamais posé de questions. Les camarades qui vous amenaient les tracts, bon, on les ventilait comme on pouvait. Mais c'était très dangereux de distribuer les tracts. Alors voilà, si vous voulez, quelle était mon activité de 1er juin 1912 et au 1er juin 1900, qu'est-ce que je raconte là, 1942, je suis dans la gare 14-18, vous voyez. L'année 1942, 1er juin 1942, au 1er juin 1944. Le 1er juin 1944, alors évidemment, il s'est passé un tas d'événements, évidemment, dans cette période. C'est ce qu'on appelait la guerre civile. Vous voyez ? La guerre civile, ça veut dire qu'on était en guerre, nous, mais On n'avait pas d'armes, nous. On faisait du renseignement. Il y a des camarades, le camarade qui était détecté un petit peu, qui sentait qu'il était en danger, il fallait qu'il rentre dans la clandestinité. Ou alors, enfin, qu'il change de région. Mais ce n'était pas notre domaine, à nous, les jeunes. Hein. C'était un autre niveau, aux adultes. Mais nous, on continuait notre travail. Alors, on faisait du renseignement. Par exemple, mon père me disait, un tel, parce que je faisais les batteuses après. On avait des contacts avec les autres gens, avec l'autre jeunesse. Et il me disait, un tel, qu'est-ce qu'il pense de la situation? Alors, il me disait, on lançait une vanne sur Pétain, un truc comme ça, puis on voyait comment il réagissait. Parce qu'il fallait recruter des gens. Il fallait recruter des hommes et des femmes à la résistance. Mais c'était très difficile de s'adresser à quelqu'un comme ça, de but en blanc. Comme la personne qui voulait entrer dans la résistance, si elle venait trouver mon père ou moi, par exemple, en disant, dis donc, je voudrais... Ben, je connais pas, hein, la résistance. Il fallait se méfier. C'est comme ça qu'il y a des... L'ennemi s'infiltrait dans nos rangs de la résistance. Donc il fallait être très prudent. Il y a des gens qui ont voulu résister, qui n'ont jamais pu le faire. Ils n'ont jamais pu entrer en contact avec des résistants. Tellement on se méfiait. La sécurité, c'était primordial. Vous voyez ? Il fallait faire très, très attention. Donc, des renseignements... Quand on a commencé, parce que distribuer les tracts, ça ne pouvait pas toujours durer. Il fallait, par les tracts, il fallait essayer de convaincre notre peuple qu'il ne fallait pas accepter la situation. Il fallait expliquer qu'il y avait à Londres un général qui avait refusé de capituler. Et puis, il fallait montrer aussi que la guerre, elle évoluait. Au fur et à mesure que les années passaient, la guerre évoluait sur tous les fronts.
C'était la première partie du témoignage de Jean Souris. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la fin de ce témoignage. Laissez-moi, au nom de toute l'équipe du Bondy Bloc Centre, vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2019.
Bondy Bloc Café.